Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, c'est une rediffusion que nous allons écouter. Elle est justifiée par la reprise par le musée d'Orsay de l'exposition « Le talisman de Sérusier, une prophétie de la couleur » qui ouvre à partir du 29 janvier. Exposition qui était présentée d'ailleurs auparavant au musée de Pont-Aven. Nous sommes donc réunis autour de 59 cm² de peinture, un peu de pigment sur une planchette de peuplier de 29 cm de haut et de 22 cm de large, un tableautin, une pochade, réalisée en quelques minutes probablement, et qui a changé l'art de la fin du XIXe siècle. Ce tableau est considéré comme une icône. C'est une des œuvres les plus célèbres des collections nationales. Il a été réalisé par un artiste peu connu du public. Ce tableau dont nous parlons est aujourd'hui appelé d'un nom magique, le Talisman. Il a été réalisé par Paul Sérusier à Pont-Aven en octobre 1888. L'aventure de cette œuvre, le contexte de son apparition et le long sillage de son effet font donc l'objet d'une exposition qui ouvre dans quelques heures à Paris, au musée d'Orsay, après être, comme je le rappelais, passé en avril dernier au musée de Pont-Aven.
C'est à la rentrée de 1888 que le nom de Gauguin nous fut révélé par Sérusier, de retour de Pont-Aven, qui nous exhiba non sans mystère un couvercle de boîte à cigares sur quoi on distingua un paysage informe à force d'être synthétiquement formulé en vert, vermillon, vert véronèse et autres couleurs pures telles qu'elles sortent du tube presque sans mélange de blanc. Comment voyez-vous ces arbres, avait dit Gauguin, devant un coin du bois d'amour? Il est bien vert. Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette. Et cette ombre, plutôt bleu, ne craignez pas de la peindre bleue. Ainsi nous fûmes présentés pour la première fois, sous une forme paradoxale inoubliable, le fertile concept de la surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Maurice Denis, 1903.
Et pour parler de ce fertile concept, comme le dit Maurice Denis, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Claire Bernardi. Bonjour Claire.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Bon, vous êtes l'une des commissaires de cette exposition. Vous avez été aussi la commissaire de l'exposition Gauguin au Grand Palais, Gauguin l'alchimiste. Et vous êtes, au moment où nous nous parlons, en train d'accrocher l'exposition événement Picasso bleu et rose au musée d'Orsay. Les premiers clous ont été plantés ou est-ce qu'on ne plante plus de clous dans les murs?
Il n'y a pas de clou, mais par contre, on a bien avancé déjà.
Ouais, c'est vrai, ça va être une merveille, non?
Ça sera une très belle exposition.
Et ça ouvre quand?
Ça ouvre au public le 18 septembre prochain.
Et donc, on va parler ensemble, évidemment, de Sérusier, mais on va parler ensemble avec Arnaud Pierre. Arnaud Pierre, merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur d'art contemporain à l'université, comment dit-on maintenant?
Sorbonne Université.
Ah oui, on ne dit plus Paris 4, etc. Voilà. À Sorbonne Université. Et vous travaillez sur les sources de l'imaginaire de la modernité, peut-on dire. Vous avez publié de nombreux textes importants sur Kupka, Picabia, Calder. On vous lit, on vous suit avec beaucoup d'intérêt. Vous avez organisé des expositions. Une qui m'a beaucoup influencé, c'est l'œil moteur que vous avez fait à Strasbourg, hein, qui a été une sorte de, une exposition précurseur sur la redécouverte de l'art cinétique. Et vous avez écrit un livre très important dans lequel vous évoquez assez largement Sérusier, et surtout la période tardive de Sérusier, qui est les maternités cosmiques chez Azan. Alors, puisque nous sommes ensemble, donc peut-être ça serait bien clair, si vous voulez bien, que vous nous décriviez ce tableau.
Alors, exercice ardu, mais c'est, comme vous le disiez en introduction, une œuvre très étonnante, tout d'abord par son format. Un tout petit format, un tableau-temps, on pourrait dire, de 27 sur 21,5 cm, le format de ce qu'on pourrait dire une pochade, une esquisse, sur bois, une huile sur bois, qui a été peinte par Sérusier avec des couleurs pures, ou quasi pures, du vert, du rouge, donc vert véronèse, vert plus foncé, du rouge vermillon, du jaune de cadmium, quelques touches de bleu. Tout cela, en parlant de couleurs, nous parlons de couleurs avant de parler du motif, pour représenter et dépeindre les bords de l'Avène, cette rivière qui longe le village de Pont-Aven, et que Sérusier est allé voir avec Gauguin pour cette leçon de peinture.
C'est très significatif que vous en parliez d'abord avec les couleurs au lieu de parler du motif. Donc ça, évidemment, je vois votre habileté, c'est-à-dire que vous voulez nous entraîner directement, c'est ce que vous pensez, Arnaud Pierre, elle veut nous entraîner directement vers l'abstraction.
Ah bah, on ne voit que des tâches.
D'abord, on ne voit que des tâches. On met du temps à deviner une image, non ?
On projette sur ce tableau en fait une connaissance ultérieure qu'on en a, bien entendu, et puis il y a un titre qui nous aide peut-être à identifier des choses, mais a priori, on ne voit qu'une petite surface recouverte de macules de peinture. C'est ça qui est absolument
prodigieux. Le titre, parce que moi j'ai dit le talisman, mais alors il y a un autre titre qui éclaire un petit peu.
Le paysage du bois d'amour. Ouais, au bois d'amour, qui est donc un lieu à Pont-Aven.
Claire ?
Oui, et pourtant j'allais rebondir justement, cette question du titre montre aussi la façon dont l'œuvre a été regardée et les strates de lecture qui ont été faites de ce tableau-temps, puisque le paysage au bois d'amour est finalement le premier titre, je dirais, qu'on pourrait donner à ce tableau et qui a été finalement un titre descriptif. Et le talisman, on ne sait pas exactement à quel moment ce titre a été donné. Il s'agit plutôt d'un adjectif au départ, donné par Maurice Denis et le groupe d'amis, les nabis qui se sont réunis et qui ont regardé beaucoup cette œuvre autour de Sérusier, pour lui donner une force, je dirais, plus grande, une force magique, quelque chose de prophétique aussi. Ce terme de talisman est devenu bientôt un substantif et on en a fait le titre de ce tableau. Qui est au départ quelque chose, et c'est là où je voulais en venir aussi, qui est une expression aussi spontanée du peintre devant le motif, auprès de celui qu'il considère comme le maître d'une nouvelle façon de peindre, Gauguin.
Parce que, il faut le rappeler, donc, il y a quelque chose de marqué sur la collaboration peut-être qu'a eu Gauguin dans ce tableau. Qu'est-ce que c'est qui est marqué
Il y a un dos.
Il y a un dos, Arnaud Pierre. Il y a un dos de ce tableau, oui, c'est vrai.
Il y a un dos sur lequel on lit, fait en octobre 1886, sous la direction de Gauguin, par Sérusier, Pont-Aven.
C'est curieux, sous la direction de Gauguin, c'est quand même... qu'est-ce que ça veut dire faire un tableau sous la direction d'un autre?
C'est une des questions qu'on souhaitait interroger en faisant cette exposition, en prenant comme objet d'une exposition un tableau. C'était aussi, pour ce petit tableau-temps, poser la question de l'autorité de cette œuvre. Il y a en fait peut-être plusieurs auteurs à cette œuvre, c'est une question qu'on peut poser. Et Paul Sérusier lui-même le signe, c'est-à-dire qu'il le signe à l'arrière. Il dit « fait en octobre 1888 sous la direction de Gauguin par Paul Sérusier ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met les deux noms côte à côte. Et le « sous la direction de Gauguin » devient quelque chose de très important pour l'identité même de cette œuvre. Et cela deviendra jusqu'au bout, je dirais, l'ambiguïté de cette œuvre, qui est une œuvre qui prend toute sa valeur pour Sérusier et ses amis, comme peut-être pour l'histoire de l'art, du fait qu'elle a été faite avec et sous la direction de Gauguin.
Ça montre le grand prestige de Gauguin aussi, à ce moment-là, inconnu du grand public, ou quasiment, mais en tout cas, très en faveur auprès d'un groupe d'artistes plus jeunes que lui, dont fait partie Sérusier.
Vous avez raison, Arnaud, de dire plus jeune que lui, parce que c'est quoi la différence d'âge, à peu près, entre Sérusier et Gauguin ?
Ils ont presque 20 ans de différence.
C'est, 20 ans de différence.
C'est vraiment une question de...
Presque une génération.
De génération.
Ouais. Oui, oui, je pense que Gauguin doit être né vers 1848 et Serrusier vers 1868, probablement.
Oui, c'est ça. Serrusier, quand il arrive à Pont-Aven, vient voir Gauguin, qui est en effet encore complètement inconnu du grand public, mais qui a déjà une aura à Pont-Aven. Il y est déjà retourné à plusieurs reprises. Donc,
Une aura à Paris.
Et quand il le rencontre, la première rencontre se fait assez difficilement d'ailleurs, il le trouve assez insupportable, mais il vient voir aussi quelqu'un auprès de qui il apprend, alors que lui-même est un jeune étudiant. Il est encore à l'Académie Julian, à Paris. Il est massier à l'Académie, donc il est lui-même plus âgé que les autres nabis. Et donc il y a une sorte de passation d'expérience.
Massier, ça
veut dire chef d'atelier.
Chef d'atelier,
voilà. Donc il avait un rôle un peu aussi de chef de file à ce moment-là.
Claire a dit tout à l'heure Nabi. Vous pouvez nous en dire un mot, Arnaud ?
Nabi, c'est-à-dire prophète. C'est le nom que s'était donné cette petite communauté d'artistes à l'Académie Julian, qui gravite donc autour de Gauguin. Et il se déclare comme cela, appartenant à une sorte de fraternité, en fait. Hein. Il n'y a pas de sens religieux orthodoxe, disons, à donner à ce terme nabi. Il y a une part peut-être même de plaisanterie, un goût pour un certain folklore ésotérique qui est très en vogue à ce moment-là.
Vous êtes sûr que c'est... Alors c'est une ironie ou c'est une
adhésion?
C'est
pas seulement de la plaisanterie, parce qu'on sait bien sûr qu'il y a quand même un certain nombre de d'idées qui passent dans ce cercle, qui viennent en effet de l'occultisme, de la théosophie, et Serrusier en particulier est très ouvert à ce courant idéologique.
Comme les artistes de l'époque, on peut dire.
Comme beaucoup d'artistes de l'époque.
Jusqu'à Mondrian.
Et oui, voilà. Ouais. Pour plusieurs générations, et en effet celle des premiers abstraits.
Claire, à votre avis, donc, ce tableau, est-ce qu'il a été fait vite ?
C'est une des choses qui apparaissent quand on regarde le tableau, c'est nous avons l'impression d'une touche rapide, d'un tableau rapidement exécuté. Et c'était une des questions qu'on vous souhaitait se poser aussi sur ce tableau qui revêt beaucoup de mystère. Parce que finalement, nous avons très peu de connaissances de la façon dont il a été exécuté, à part les textes magnifiques de Maurice Denis qui décrivent ce moment-là et qui sont déjà des textes qui sont de seconde main, on pourrait dire. L'observation fine de la surface picturale et les analyses qui ont pu être réalisées à l'occasion de l'exposition, par le Centre de restauration et de recherche et de restauration des musées de France, nous ont amené à, je dirais, conforter certaines vérités et à en infirmer d'autres. Et par exemple, cette rapidité d'exécution est clairement attestée par le fait qu'on voit que la peinture a été faite sans préparation, que l'œuvre a été faite vraiment dans le frais et qu'elle a même eu peu de temps de séchage. On voit même des traces, des traces d'empreintes digitales qui prouvent que le tableau-teint a été pris par les mains avant d'être sec.
Alors, c'est les mains de Serrusier ou les mains de Gauguin ?
Grand mystère. Une petite enquête s'impose. Moi, j'avoue que je suis très...
Que fait la police ? Non, ça vaudrait le coup de mettre un commissariat sur l'affaire.
Non, je suis assez d'accord. On a envie d'en savoir plus. J'ai envie de garder aussi le mystère et se dire qu'il y a les empreintes digitales des deux artistes.
Ouais.
Et puis aussi un travail assez, rapide d'exécution, mais qui cherche aussi, avec certains repentirs dans la composition, à souligner. On voit que certaines couches de peinture ont recouvert une première couche, et puis que parfois la peinture a été glissée avec le doigt, ou le manche du pinceau a été utilisé pour graver la surface. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une recherche assez novatrice dans la façon de peindre elle-même, dans cette composition qui est clairement peinte, et ça c'est une des autres choses importantes à souligner par rapport au mythe qui a entouré cette œuvre. C'est un petit panneau de bois qui est un format standard que l'on trouve dans le commerce et qui a sûrement été emporté par Serruzzi avec lui pour peindre sur le motif.
Mais attendez, vous rigolez. Moi, j'ai entendu Maurice Denis dire que c'était une boîte à cigares.
C'est une des grandes... Une des croyances pour lesquelles on a envie de croire dur comme fer pendant longtemps, moi jusqu'au moment de préparer l'exposition, une des grandes questions c'était est-ce un couvercle de boîte à cigares ? Maurice Denis lui-même, dans les textes ultérieurs, ne parle plus de couvercle de boîte à cigares, mais de panneaux de bois. Il était intéressant d'aller jusqu'au bout de l'analyse, donc nous avons fait faire des recherches. On sait que le bois employé n'est pas un bois qui était employé pour les boîtes à cigares, et que en effet, ce genre de panneaux avec un petit biseau était assez... non pas courant, mais usité à ce moment-là.
Même le pape peut se tromper. L'histoire de la boîte à cigares, c'est une influence de Seurat, en fait, sans doute, hein, dont on savait qu'il réalisait des esquisses.
Tout à fait.
Couvercles de boîtes
à cigares. Et d'autres peintres de cette époque, hein, en cherchant un peu, on se rend compte qu'on a... Récemment, il y a eu une exposition sur les peintures en boîte à cigares, je crois.
C'est pas vrai.
D'un peintre que je ne connaissais pas du tout de l'École du Nord. Il faut savoir que Maurice Denis lui-même a peint, ça du coup je l'ai su en travaillant sur cette exposition, sur des petits panneaux de boîtes à cigares, et lui-même avait des boîtes à cigares partout chez lui. Donc il y a aussi peut-être cette idée de matériaux usuels. Probablement, il l'a renforcé par cette idée de couvercle, l'idée de la spontanéité du geste, peut-être, le fait qu'on prenait ce qui lui tombait sous la main et qu'on pouvait peindre avec tout et avec peu.
Alors Arnaud Pierre, j'ai deux questions à vous poser. L'une, c'est pourquoi, Gauguin et Serruzzi sont revenus au village, je suppose, ce tableau a été immédiatement adopté. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il vous intéresse encore ?
Alors, je préfère répondre à la deuxième question tout de suite, parce que c'est oui, bien sûr, absolument.
Et pourquoi ?
Eh bien, parce que on peut, je pense, sans trop forcer l'analyse, la lecture, et sans trop de téléologie historique, en faire un des jalons absolument primordial dans une espèce de marche, en effet, à la modernité, qui conduira vers l'abstraction, ça, naturellement. On vient d'écouter le très beau texte donc de Maurice Denis de 1903, où évoqué pour la première fois, je crois, hein, ce tableau de Serruzzi, donc pas mal de temps quand même après sa réalisation, mais un texte où il dit que, bien que non connu du public, ce tableau a fait son chemin quand même dans toute une communauté d'artistes, et dans le même texte apparaît la fameuse définition de Vasarely du tableau comme surface plane recouverte de couleurs.
Pas Vasarely.
Pas Vasarely.
Parce que vous préparez une exclusion Vasarely, donc ça, c'est normal, ça habite l'esprit. Ouais.
Donc, cette définition de Maurice Denis du tableau comme surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. La carrière publique, en quelque sorte, du tableau commence en même temps qu'arrive cette définition formaliste de la peinture, sur laquelle on peut former un des socles, en effet, de l'abstraction, d'une grande partie de la modernité. Mais je modérerai quand même définition formaliste en disant qu'il faut bien aussi se rendre compte de ce qu'a été, d'après Maurice Denis, cette leçon, qui confine quand même à une espèce donc de lecture hallucinatoire de la réalité, en fait. Hein, où Gauguin donc disant à Serruzzi qu'est-ce que tu vois là, du jaune, mets le plus beau jaune de ta palette, etc. Pour le rouge, le vert, etc.
Mais je trouve que c'est très important. C'est très important de se considérer que c'est une hallucination aussi et qu'il y a une recherche psychique
tout à fait
derrière ce tableau qui correspond un petit peu aussi à un certain romantisme des artistes réunis là, non ?
Tout à fait. Et il y a ça derrière la définition aussi de Maurice Denis, je le pense. Hein. Et d'ailleurs, Maurice Denis, lui aussi, produit finalement des tableaux qui ont ce caractère complètement hallucinatoire. L'exposition les rassemble, je trouve, dans une petite section là tout à fait bien venue et bien construite qui s'appelle les icônes hein, du mouvement Nabi. On y voit avec le Christ vert de Maurice Denis en particulier, hein, qui est son talisman à lui d'une certaine manière. Hein. Il est peint quelques années plus tard, en 1890, et c'est un Christ vert dégoulinant effectivement, une espèce de tache hein, dégoulinante, elle-même prise dans d'autres taches rouges et jaunes qui coulent sur le tableau. C'est une vision là totalement hallucinatoire, comme l'est aussi celle de la messe au même moment. Et à chaque fois, ce sont de tout petits tableaux qui concentrent comme ça dans un tout petit espace visuel une force visuelle absolument étonnante et qui ont un caractère hypnotique et magnétique fonctionne encore. Et oui, pour vous répondre, nous intéresse toujours.
Mais vous avez raison d'insister sur cette hypnose comme ça, parce que au fond, la vision après le sermon de Gauguin, c'est une vision. Donc l'intérêt voilà. pour la vision. Mmh. Mais j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ce que ça signifie du point de vue mythique, parce qu'on est aussi dans un sous-bois, dans un monde enchanté. On est dans Brocéliande, en quelque sorte,
oui.
non
oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Claire?
Oui, pour rebondir sur ce que disait Arnaud, une des dimensions qu'ont repris tout de suite les nabis de cette production et du talisman, mais aussi de ce qu'ils ont retenu de la leçon de Gauguin dans les années des toiles peintes dans les années 88, c'est ce que Paul Gauguin dit lui-même et que Maurice Denis rapporte, aller au centre mystérieux de la pensée. Donc il y a cette idée aussi, d'ailleurs, que dont Dario Gamboni a fait une très belle analyse, cette idée aussi que dans il ne s'agit pas de se libérer de la représentation. Il y a l'idée de la représentation d'une nature au centre de la peinture, mais elle est sublimée, dépassée, et cette question, comme vous le disiez, cette représentation hypnotique, à mon avis, c'est un terme qui est tout à fait intéressant pour ces quelques petites merveilles de ces petites icônes nabi qui sont des tout petits formats qui concentrent sur un espace très réduit des formes et des couleurs assemblées en un certain ordre.
On aura chez Vuillard avec les intérieurs
On rassemble dans cette exposition des Vuillard, des Bonnard, mais aussi Rançon. Il y a toute cette Valoton, il y a cette communauté nabi qui se réunit petit à petit, ce cercle qui s'élargit d'ailleurs. Roussel aussi qui fait des très belles toiles. Et en effet, vous en parliez, cette question de la représentation de la nature qui est au centre, à mon avis, de la vision nouvelle qu'ont les nabis de cette part symboliste de la peinture. Il renouvelle ce symbolisme qui est à l'œuvre à la fin du XIXe siècle et qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements, mais il le renouvelle aussi par cette préséance, je dirais, donnée sur la façon de peindre et d'assembler le motif.
Alors,
Arnaud Pierre, oui.
Oui, Serrusier va se prétendre quand même aussi précurseur du cubisme, puis de l'abstraction. Il va faire valoir pour cela un petit groupe d'œuvres qu'il réalise apparemment autour de 1910. Dont les fameux maintenant tétraèdres qui viennent d'être achetés par le musée d'Orsay, qui
bravo,
sont des tableaux
hein,
tout
capture.
À fait mystérieux, hein, tout à fait mystérieux, tout à fait étrange, qui posent des tas de questions justement par rapport à la chronologie comme cela des avant-gardes et des débuts de l'abstraction. Et si on peut en parler un petit peu d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce tableau-là.
Ça tient beaucoup à ce qu'on en parle.
Qui est dans l'exposition.
Une bonne partie, il est dans l'exposition.
Oui.
Mais peut-être, si ça vous embête pas, Arnaud, on va poursuivre un tout petit peu sur cette affaire là du talisman, parce qu'on va voir comment ça nous amène à cela. Et j'aurais voulu qu'on écoute la façon dont en 1920, Serrugier meurt vers quelle année à peu près, Claire Bernardi?
Il meurt assez tardivement, hein, dans les années 1910, donc après quoi, à la
1920,
pardon, 27.
Mais c'est une mort tragique, très inattendue en fait. Hein,
il a beaucoup souffert dans sa vie. Les dernières années ont été très dures. Sa femme elle-même était souffrante. Elle souffrait de maladies psychiatrique, et les dernières années ont été très dures, et en effet sa mort a été brutale et tragique après des années de réclusion, je dirais, à Châteauneuf-du-Foule, le dernier endroit où il vit pendant des années, assez retiré, où il fait des œuvres assez étonnantes.
Il faut aller voir les fresques du petit baptistère de l'église de Châteauneuf-du-Foule, sont absolument incroyables, qui découlent en fait des saintes mesures de Byron. C'est des choses très géométriques, très plates, très égyptiennes en fait, et également proche de peintures qu'il réalise au même moment dans sa propre maison, que je ne connais pas moi personnellement, j'ai jamais pu y entrer, je ne sais pas si Claire y est allée, mais on en connaît quelques photographies qui sont là aussi sur le plan iconographique, comme formel, absolument étonnantes.
On va parler de cette partie-là, parce que ça concerne beaucoup d'autres artistes qui sont dans l'exposition, comme Filiguer, par exemple, ou Vercade, ou d'autres. Non, pas Vercade. Si, Vercade.
Si, Vercade, Vercade, oui, qui était à Bayonne.
Voilà. Mais je voudrais qu'on écoute, c'est une mise au point qu'il fait en 1920, c'est un petit mot qu'il fait à Charles Sitas qui lui demande de l'éclairer sur cette période historique. Donc écoutons-le, on précisera un petit peu le contexte, parce que je voudrais aussi qu'on évoque un petit peu les membres de l'Académie, Julian, ce que c'est que cette Académie Julian qui se retrouve à Pont-Aven, etc. Donc écoutons la mise au point historique de Sérusier lui-même avec nous.
Monsieur, c'est avec joie que je reçois votre invitation à éclaircir un point d'histoire de l'art qui, depuis 25 ans, a été dénaturé par l'ignorance des uns et la mauvaise volonté des autres. C'est en 1888 que je vis pour la première fois Paul Gauguin à Pont-Aven. Il était accompagné de Laval, Moret, Bernard et de Chamaillard. Ce petit groupe vivait à part. Il mangeait à part dans la pension Gloanec et ne communiquait en rien avec les autres pensionnaires élèves des Beaux-Arts ou de Julian, américains ou anglais. Ce ne fut qu'à la fin de 1888 que j'entrai en conversation avec les impressionnistes. Cette conversation me découvrait de nouveaux horizons encore bien nuageux. Rentré à l'Académie Julian, je prêchai la révolte et un groupe se forma avec des idées différentes. Nous avions tous un lien commun. Le désir de nous affranchir de l'enseignement officiel. Ce furent Maurice Denis, Ibels, Ranson, Bonnard, Vuillard et Roussel. En 1889, à l'exposition universelle, Gauguin et ses compagnons organisèrent une exposition de leurs œuvres dans un café-restaurant italien, le Volpone. À la fin de 1889, je retrouvai Gauguin à Pont-Aven et nous partîmes tous deux au Pouldu. Nous travaillâmes ensemble au Pouldu avec un Hollandais, Meyer de Hanne. Paul Sérusier à Charles Sitas, 1920.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et nous parlons d'un tableau incroyable appelé Promenade au Bois d'Amour, mais surtout surnommé Le Talisman, qui est un tableau de Sérusier, un tableau de 1888 et qui a changé un petit peu, je crois, ou largement, le cours de l'histoire de l'art. Et pour en parler, je suis avec Claire Bernardi, la commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée de Pont-Aven, et avec le grand historien Arnaud Pierre. Et nous parlions à l'instant de ce petit groupe, nous entendions comme ça la mise au point de Sérusier, qui parlait de ce groupe tellement jeune, 18, 20 ans, 21 ans, qui se retrouve à Pont-Aven, découvrir le maître. Arnaud, c'est ils suivaient quoi ? Ils avaient appris avec Bouguereau, qui était professeur à l'Académie Julian, quelque chose comme ça, et ils cherchaient à s'affranchir de quoi ? Du pointillisme, de l'impressionnisme, de quoi ?
Ils cherchaient à s'affranchir de l'académisme, de l'enseignement de l'académie, ça oui. Et je pense qu'au contraire, le pointillisme, les impressionnistes étaient plutôt des alliés pour cette génération-là. Mais en même temps, il fallait évidemment s'en démarquer, oui, il fallait faire autre chose. Oui. Je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire pour ne pas laisser croire aussi que nous faisons du talisman quelque chose qui n'est pas totalement à l'époque où nous en parlons, en tout cas. C'est vrai que le tableau circule beaucoup comme cela à l'intérieur de ces artistes. Il est connu d'un grand nombre d'artistes, finalement, hein, dans ces années 1890, mais il n'est présenté pour la première fois au public, il n'est exposé que dans les années 40, hein, si je me souviens bien.
Alors,
clair.
C'est intéressant. Je ne savais pas.
Donc, par rapport à une histoire de l'art, une réception du tableau dans une histoire de l'art plus large, plus ouverte, le tableau arrive assez tard, quand même, en fait.
Hein. Mais il est légué à Maurice Denis. Il y a une sorte de culte, non? Il est exposé, on va en dévotion le regarder, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça?
Justement, c'est
Claire,
une des...
Claire et nous.
Oui, pardon. C'est une des vérités que nous cherchions un peu à rétablir en préparant cette exposition et aussi à en connaître un peu plus. Il y a beaucoup de mystères là aussi dans l'histoire de la trajectoire de cette œuvre, notamment sur les dates. Mais ce qui est sûr, c'est que ce talisman n'a été vu que par un petit groupe de peintres qui sont ces artistes nabis. Il a eu beaucoup d'importance pour eux.
C'est une œuvre pour artistes.
C'est ça, c'est comme une œuvre pour artistes, tout à fait. Et en fait, l'œuvre arrive tout de suite après avoir été faite par Sérusier à Pont-Aven. Sérusier revient à Paris, à l'Académie Julian. Il la montre à ses amis. Il la présente dans ce qu'ils appellent sûrement le temple, qui est l'endroit où ils se réunissent. Alors, toujours avec ce vocabulaire assez choisi, souvent ésotérique.
Les crosses et les manteaux de mages ont-ils existé?
Alors, je pense qu'ils se déguisaient, parce qu'on voit certains tableaux sur lesquels ils sont représentés.
Un célèbre portrait qui est dans l'exposition, qui est le portrait de Roussel.
Portrait de Rançon par Sérusier.
Ah oui, voilà. Mais ils ont fait tous, par contre, des portraits croisés, des portraits mutuels, dans lesquels ils se représentent en habit. Celui-ci est le plus peut-être caractéristique de ce folklore un peu qui est autour,
parce que là c'est vraiment un manuscrit en train d'être exploré.
Là c'est presque trop dans la façon de dans la. Mais il peut-être plus qu'un jeu. En effet, c'était aussi une façon de se reconnaître entre eux. Et le talisman était un des tableaux qu'ils se montraient entre eux. Il faut savoir qu'il y avait aussi des Gauguin que Maurice Denis avait acquis et qui étaient souvent des petits tableaux. Par exemple, la Nature morte faite Glouanec, qui est maintenant au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui a appartenu à Maurice Denis et qu'il montrait à ses camarades.
D'autres œuvres, Christ jaune,
l'autoportrait au Christ jaune. Donc fameux, on voit le Christ vert de Maurice Denis.
Une réponse directe à celle qu'il a possédée
dans sa propre collection personnelle. Donc une petite collection qui est une sorte de collection d'études, en fait, pour ces artistes qui se montrent entre eux des œuvres qu'ils adorent et qui les influencent.
Quand vous dites qu'ils l'adorent, vous le dites presque au sens religieux. C'est des icônes, c'est qu'il y a une présence réelle de l'art qui surgit.
Et Maurice Denis parle de ce terme d'icône en disant aussi qu'il s'agit aussi l'icône au sens de l'image, d'une image présente, pour eux, et il ne lui donne pas un sens religieux, mais un sens... il y a quand même l'idée de la mettre en...
Il y a quelque chose du tableau de dévotion,
c'est ça,
quand même.
Ouais.
Hein, voilà, le petit format sur lequel l'attention va se concentrer.
Avec une petite, peut-être... mais ça peut aller dans votre sens aussi, mais avec une petite nuance, c'est que on ne la met pas en valeur dans un endroit public.
Oui, parce que le tableau de dévotion est fait pour la dévotion privée,
c'est ça.
En fait.
Hein, et même en privé, elle reste un petit objet d'étude aussi, puisque Maurice Denis, on le sait par les témoignages de la famille, ça c'était assez émouvant aussi de les recueillir, poser le talisman, on sait qu'il le posait sur un coin de table ou sur un meuble et pas forcément accroché, qu'il a lui-même fait construire un peu, fait un petit cadre et qu'ensuite il en a fait faire un autre, mais qu'il s'agit de cadres très simples qui sont juste... Donc il y a une présence de l'œuvre qui est aussi un petit objet qui lui suit dans le quotidien. Et donc cette œuvre passe de Sérusier, du Cercle des Nabis, à Maurice Denis, à une date que nous ne pouvons établir, mais que l'on pense par certains témoignages, et Fabienne Stahl, dans le catalogue de l'exposition, essaie de retracer ça, probablement au tout début du XXe siècle, dans les années 1900, peut-être au moment d'ailleurs, pourquoi pas, au moment où Maurice Denis écrit ce texte pour l'Occident, où il met pour la première fois en avant cette œuvre et montre son importance pour la création du mouvement nabi.
Alors, importance pour la création du mouvement nabi, importance pour la naissance du fauvisme après, pour la naissance d'abstraction. Parce qu'il faut bien qu'on l'ait vu pour dire qu'elle est importante pour eux.
C'est une des énigmes, c'est-à-dire que vous me dites ce que vous en pensez, Arnaud, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Cette œuvre a été vue au filtre aussi d'autres artistes. Et elle a sa première présentation publique étant en effet en 1943. Maurice Denis la prête pour une exposition qu'il organise dans une galerie parisienne, dont il fait la préface. Et cette œuvre a été ensuite présentée à de nombreuses expositions, mais avant 1943. Elle reste dans les mains de Maurice Denis et n'est pas montrée.
Mais Maurice Denis connaît tout le monde.
Mais Maurice Denis, voilà. Mmh. Donc une œuvre pour artiste peut-être, en effet. On pense, il y a aussi les œuvres qui ont été influencées par cette œuvre-là, à mon avis. Donc il y a aussi ce chemin-là. Et puis les accointances et les relations entre artistes. Mmh. Ceux qui sont venus à Paris. Alors ça, c'est des choses que...
Oui, oui, oui. Enfin, puis via Matisse, en effet, via la génération Fauve, qui chez les Fauves est entré chez Maurice Denis, a vu éventuellement le tableau. Ça, ce sont des choses, je crois qu'en l'état de la documentation, on ne peut pas vraiment préciser. Mais voilà, puis les idées aussi font leur chemin un petit peu...
En dehors de l'objet. On peut ne pas voir l'objet, mais le mythe se crée.
Voilà, voilà. Et on a beaucoup d'exemples comme cela, d'artistes qui, en fait... ont eu connaissance de tableaux par des descriptions, par des évocations, et l'évocation était suffisamment forte pour entraîner quelque chose, pour susciter quelque chose. Ça, il y en a, oui, il y en a d'autres exemples.
Et je vous vois feuilleter le catalogue pendant que nous parlons, et vous regardez un tableau, lui aussi, de Sérusier de...
88.
Qu'est-ce qui vous étonne dans ce tableau? Racontez-nous.
Oh, bah ça, c'est à Claire, je crois, de le dire.
Hein, parce Claire, que, alors, dites-moi.
Elle en connaît mieux la chronologie. Il date de 1888,
c'est donc la même année
du talisman. Mais c'est un tableau qui n'a vraiment rien à voir. On est dans une sorte de réalisme de bretonnant, là.
Quel est ce mais, alors, Claire?
Alors, il s'agit d'un tableau qui est conservé au musée de Pont-Aven. Donc, nous avons pu montrer dans l'exposition et qui viendra ensuite au musée d'Orsay pour la seconde étape de cette exposition, qui s'intitule « Intérieur à Pont-Aven ». Qui a été réalisé par Paul Sérusier en 1888 à Pont-Aven, probablement quelques mois, peut-être quelques semaines avant qu'il réalise le talisman. Ouais. Et il s'agit d'une œuvre très réaliste, presque naturaliste, l'on pourrait dire, à ce détail près qu'il s'agit donc de deux paysans bretons dans un intérieur breton avec des costumes bretons, une scène peut-être que l'on retrouve chez beaucoup d'artistes de cette période-là, à la fin du XIXe siècle. Une scène qui, cependant, où l'on voit déjà Sérusier jouer des codes, mais une scène qui est absolument à l'opposé de ce qu'il peut le réaliser quelques mois plus tard.
C'est pas très du tout les Bretons, ni de Gauguin, ni de Bernard.
Absolument pas.
C'est aussi, ça montre quand même, par contraste, l'incroyable force d'attraction, tout à coup, de Gauguin et de Bernard, d'ailleurs, quand même aussi, il me semble.
Oui, qui
est en lien. Il faut en parler.
Le contact devait être plus facile avec Bernard, qui a le même âge que lui, quasiment, qu'avec Gauguin, non?
Alors, étonnamment, en fait, c'est... je pense que c'est aussi des questions de moments où Sérusier a pu venir à Pont-Aven et des occasions ratées ou réussies. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut retracer un peu le parcours de Sérusier quand il arrive à Pont-Aven et ses relations avec Gauguin par la correspondance. Et c'est intéressant de voir que il est au départ complètement exclu de ce petit cercle et des gens qui gravitent autour de Gauguin et de Bernard, et que c'est assez tardivement qu'il accède à Gauguin, et surtout qu'il comprend qu'au-delà d'un homme imbuvable et détestable pour les petits jeunes qui traînent autour, il y a aussi cette idée de ce génie qui va révolutionner la peinture. Et Sérusier lui-même est assez circonspect sur ce personnage et aussi sur ce qu'il crée.
Alors écoutons peut-être justement une lettre que Gauguin envoie à Maurice Denis pour parler de sa relation à Gauguin. Voyons voir.
Je me suis aperçu dès mon arrivée que Gauguin, qui est avec moi, n'est pas l'artiste de mon rêve. J'ai vu dans son raisonnement des points où nous ne sommes pas d'accord, et dans ses œuvres, un manque de délicatesse, une affection illogique du dessin, puérile, une recherche d'originalité allant jusqu'à la fumisterie. Je me suis donc abstenu de lui montrer ce que je fais. Aussi, je me sens bien seule. Un mot, un encouragement me ferait du bien. C'est terrible, quelquefois, de se retrouver en face de ces toiles et de se demander constamment si c'est beau ou absurde. Je rêve pour l'avenir d'une confrérie épurée, uniquement composée d'artistes persuadés, amoureux du beau et du bien, mettant dans leurs œuvres et dans leur conduite ce caractère indéfinissable que je traduis par Nabi, Je suis sûre que tu me comprends bien. Paul Sérusier, lettre à Maurice Denis, 1889.
Alors, on vient d'entendre ce que vous expliquiez, Claire Bernardi, c'est que la relation à Gauguin est dure. Mais quelques jours plus tard, ça évolue. Écoutons la suite.
Cette lettre tristement commencée il y a 3 jours, je suis heureux de pouvoir l'achever d'une manière plus gaie. Je suis arrivé hier sur ces plages magnifiques où je vais vivre 15 jours seul avec Gauguin, sans distraction, sans souci et sans apéritif. Je suis pris d'une fièvre de travail. Tout va bien. Sois avec moi par la pensée. Je crois que je vais enfin faire quelque chose de propre. Tout d'abord, excuse-moi de l'incohérence de ma dernière lettre, commencée dans un moment d'aigreur et de dégoût, et finie dans une période de soulagement irraisonné. Je me repens de ce que j'ai dit sur Gauguin. Il n'a rien d'un fumiste, du moins à l'égard de ceux qu'il sait pouvoir le comprendre. Depuis 15 jours, je vis avec lui dans la plus profonde intimité. Nous partageons la même chambre. Ce qui, dans son œuvre, m'avait déplu, j'en ai causé avec lui. Il ne faut l'attribuer qu'à quelques boutades de contradiction aux habitudes de la peinture moderne. Paul Sérusier, lettre à Maurice Denis, 1889.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes en train de parler d'une exposition qui a lieu au musée de Pont-Aven et qui s'appelle Le Talisman de Sérusier. Et je suis avec Arnaud Pierre et Claire Bernardi pour en parler. Et nous venons de faire le tour un petit peu de l'apparence de cette œuvre, de son apparition dans le contexte des Nabis, de ces groupes d'artistes qui se disent des prophètes. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe ensuite. Et ce qui se passe ensuite, Arnaud Pierre, peut-être est-ce aussi une transformation de ces artistes qui deviennent de plus en plus cérébraux. Est-ce que ça vous paraît juste comme terme ?
Oui, on évoquait tout à l'heure ce mystère du langage de la pensée, je ne sais plus l'expression exacte, mais ça revient à cela, et on y accède par la ligne, par la forme, par la couleur, hein, qui sont des véhicules justement comme cela, de la pensée, du psychisme du peintre, et j'ai sous les yeux justement ces œuvres des années 1890 des uns et des autres, qui sont scandées par des rites de troncs d'arbres qui sont animés par des feuillages extrêmement découpés, où on a déjà en fait des volutes très Art Nouveau d'une certaine façon. On a là en fait tous les moyens que mobilisent ces artistes pour justement susciter l'empathie en fait chez le spectateur. C'est exactement ce que les théoriciens de l'Art Nouveau diront aussi par la suite, comme Henri van de Velde par exemple, hein, que la ligne est une force, que le rythme a des résonances comme cela chez celui qui le regarde, et que tout cela place en fait le spectateur dans certains états contemplatifs sont de nature à modifier en réalité les états psychiques du spectateur. Et là, dans cette entreprise, dans cet objectif, ces artistes mobilisent des moyens d'une simplicité totale et d'une efficacité complète qui fait que je crois que leur peinture, en effet, garde encore cette force d'attraction, cette attirance qu'elle a sur nous.
Alors, Claire, est-ce que c'est... Gauguin, lui, va partir dans les îles, il fait ce voyage à la Martinique, il creuse le canal de Suez, et puis il part dans le Pacifique, il va dans quelque chose de primitif, et les autres vont au contraire dans quelque chose qui a l'air d'être très mental, une sorte de curieuse construction de l'esprit.
Il est vrai que Ce cercle d'artistes, ce groupe des Nabis, se réunit peut-être autour de cette idée de la pensée est au centre de leur création, mais elle n'est jamais déconnectée de l'idée du décor au sens noble du terme, de la question du décoratif, qui est aussi quelque chose qui est très intéressant dans leur dans la construction de leur art. Il s'agit en effet d'un art très construit mentalement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'artistes, déjà peut-être qu'il faudrait le dire, tous très cultivés, qui ont fait des études assez poussées pour la plupart, qui sont issus des lycées ou des grandes écoles parisiennes, et qui ont d'ailleurs un côté assez, qui sont tous issus... pas tous d'ailleurs, mais la plupart issus d'une bourgeoisie parisienne confortable, qui sont dans un cercle de connaissances qui dépasse le cercle des peintres, mais qui est aussi le cercle des poètes et des écrivains de ce moment, et qui peuvent théoriser leur art et qui en ont les moyens conceptuels.
Et la notion de décoratif est absolument capitale à ce moment-là. Elle va faire peur d'ailleurs à pas mal de monde en réalité. Hein. C'est un des grands impensés en réalité de l'art des avant-gardes du début de l'abstraction. Enfin, on sait la crainte d'un Kandinsky par exemple envers le décoratif. Mais dans le contexte des nabis et de l'art nouveau par la suite, le décoratif c'est tout ce qui, faisant abstraction du sujet, porte justement cette force, cette énergie vers le spectateur. En fait, c'est le pouvoir de la ligne, de la forme, de la couleur, hein, de susciter quelque chose, de susciter susciter des émotions chez le spectateur.
Mais c'est des émotions
abstraction faite, et puis abstraction faite de tout sujet en réalité. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire que le sujet reste important naturellement, mais il est traité d'une certaine manière. Cette attention à la manière, à la forme finalement, se traduit hein, par la mise en avant par le travail de cette notion du décoratif.
Claire Bernardi.
Je dirais en effet que cette notion de décor est toujours liée à la question de l'émotion transmise et d'une certaine recherche de spiritualité. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils exploitent et comprennent le mieux de la pensée de Gauguin et de ses œuvres de la fin de sa carrière. C'est ce qu'on a souligné peut-être dans l'exposition Gauguin qu'on a voulu montrer, c'est la complémentarité entre les arts chez Gauguin, son rapport à la peinture et au décor dans la peinture, mais aussi dans les arts dits mineurs, la sculpture, mais non pas la sculpture, mais les objets travaillés, sculptés, la céramique. Et les nabis reprennent une partie de cette pensée dans une pensée de l'art qui passe par le décor en peinture, mais aussi, là aussi, un travail presque... de confrérie et phalanstérien parfois sur les arts décoratifs. Ils font de la tapisserie, ils font des objets du quotidien et souvent ces œuvres sont complémentaires. Je pense à un paravent de Marguerite Sérusier qui est très proche de toiles faites par Sérusier, qui lui-même fait des paravents ou d'autres objets, et dans lesquels on voit le rapport au paysage et au décor, là encore avec une notion, je dirais, du décoratif au sens large, qui prolonge leur pensée.
D'une certaine façon, non ?
Oui, oui.
Parce qu'en fait, ils vont parvenir, quoi, parce que vous parlez des églises, les uns de ce groupe deviennent moines, d'autres deviennent d'un mysticisme perdu, comme Filiguère, je pensais à Vercade qui devient moine à la fin de sa vie. Ouais. Sérusier lui-même est d'un mysticisme absolu, il lit saint Thomas d'Aquin en latin tous les jours, donc c'est quand même une drôle d'équipe.
Et c'est un lecteur aussi des philosophes antiques, Pythagore, Platon, on va peut-être en parler, j'imagine, là, bientôt, pour un moment important de son œuvre, tout ça cristallise, c'est le cas de le dire d'ailleurs, que les tétraèdres, par exemple.
Flotte entre nous cette fascination pour deux tableaux, le cylindre d'or et les tétraèdres. Ils sont tous les deux de 1910, non, à peu près
On ne connaît pas la date exacte,
Claire Bernardi, oui.
Je me pose la question, mais c'est encore... C'est autour de 1910, peut-être un peu avant, à mon avis. Mais dans ces années-là, et c'est vrai que Sérusy a eu plusieurs, je dirais, plusieurs vies de peintre et plusieurs étapes dans sa carrière. Là, l'exposition s'attachait aux racines avec la peinture du talisman. Mais ce qui est très étonnant, c'est la longévité de sa carrière avec des œuvres très différentes et qui pourtant recoupent parfois des intérêts. Et là, on parle d'une série d'œuvres presque abstraites des années 1910 qui paraissent tellement différentes de ce qu'il faisait auparavant.
Vous pouvez nous les décrire
Je les présenterais plutôt que comme des œuvres abstraites, des œuvres d'objets abstraits, en fait.
Hein, dans une atmosphère réelle, en fait.
Qui montre, donc pour l'un, le cylindre d'or, qui est un petit tableau aussi, ce que dit le titre, un cylindre, revêtu d'une couleur dorée qui flotte comme cela dans un espace cosmique. Il y a juste une petite ligne en bas qui fait une ligne d'horizon, en fait, qui restitue un espace, on n'ose pas dire naturaliste, alors que dans les tétraèdres, autres objets abstrait, ceci flotte dans un espace, lui, complètement indifférencié, où il est structuré, malgré tout, d'une certaine façon, par le développement de la lumière, en fait. Les tétraèdres, c'est une espèce de spectre chromatique. Il commence en bas par les teintes froides, il se prolonge par les teintes chaudes, il est plus lumineux en haut, et au milieu de tout cela, donc, flottent ces formes étranges, ces tétraèdres, qui sont donc c'est pas la pyramide égyptienne, mais c'est la pyramide à quatre faces égales, quatre faces triangulaires égales, qui est donc, d'après Platon dans le Timée, le premier des corps simples. Il y en a cinq autres, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre, etc. Et l'un s'enchaîne avec le suivant, en quelque sorte. Les cinq solides platoniciens décrivent en quelque sorte la croissance des formes, une espèce de croissance non pas organique, mais cristalline, finalement, des formes. Et Sérusy est au courant de cela, connaît ce fond, c'est une des sources évidentes, une des sources intellectuelles évidentes du tableau, et à mon avis s'y mêlent également ses intérêts pour la théosophie, parce que la théosophie relie naturellement Platon, intègre en fait l'enseignement du Timée à ce qu'elle appelle la chimie occulte, certains des personnages les plus importants de la théosophie, que sont Annie Besant et Charles Ledbetter, écrivent une chimie occulte qui repart comme cela du Timée de Platon, et qui décrit...
Qu'est-ce qu'est la théosophie pour nous?
Alors, la théosophie, c'est ce courant de pensée philosophique et religieuse syncrétiste, qui essayait de mêler les traditions de l'Orient à celles de l'Occident, et de fondre en fait l'ensemble des traditions religieuses et philosophiques dans une espèce de corps de doctrine unique, qui aurait été la religion de la modernité, en fait. En lien précisément avec les sciences.
Et une grande présence en France, parce que effectivement.
Partout en Europe, aux États-Unis aussi.
Le grand livre lu par tous ces artistes en France, c'est le livre de Chouret sur les grands initiés.
Voilà, Et donc on trouve dans cette chimie occulte de la théosophie l'idée qu'en effet les tétraèdres sont en quelque sorte les briques de la vie, en fait, les éléments primordiaux de la vie. Donc on assiste, ce tableau nous montre en quelque sorte ce que les théosophes appellent aussi le protyle, le milieu comme cela primitif, le milieu indifférencié dans lequel émerge en fait la vie, dans lequel s'organise petit à petit la vie à partir donc de ces éléments primordiaux que sont les tétraèdres.
Il y a quelque chose que je trouve assez frappant, c'est qu'il ne perd pas la picturalité. C'est un monde mental, mais néanmoins, la touche est très régulière et fait penser un petit peu à la touche que Malevitch utilise pour son carré blanc. Comme s'il y avait une excitation spatiale, comme si la matière était légèrement excitée.
Une vibration
primordiale.
Il y a une des choses qui apparaît quand on regarde la surface du tableau, c'est en effet cet aspect vibratile et le fait que la juxtaposition des touches colorées rejoint l'idée de cette complémentarité des couleurs qui rejoint l'enseignement de Sérusy à ce moment-là. Mmh. Et c'est une des choses qui permet peut-être de dater ces toiles, c'est que Sérusy, toujours en lien avec ses confrères Nabi, enseigne à ce moment-là à l'Académie Rançon, qui a été fondée par son ami Ranson.
Qui est aussi un habit symboliste, enfin un post-symboliste Nabi, oui.
Et l'on retrouve dans la documentation, dans les archives de ces rusiers, et maintenant dans les musées, quelques essais de cercles chromatiques et de dissonances chromatiques qui s'attachent à une juxtaposition des couleurs, qui montre une réflexion et une théorie de la couleur nouvelle qui est complètement complémentaire de sa recherche sur les formes primitives et géométriques primitives.
Oui, parce que la théorie de la couleur va avec une théorie de la naissance du monde, finalement. Hein. Et de la naissance du monde comme, précisément, un monde de lumière. Hein. Puis, évidemment, on parle de peintres, hein, de gens donc, qui sont, évidemment, captivés par les phénomènes chromatiques et lumineux. Et donc, le monde est conçu comme lumière, uniquement couleur et lumière. Enfin, donc, la couleur, ce qui rend visible, d'une certaine manière, la lumière. Et là, il y a un tableau aussi passionnant qu'il faudrait mettre en rapport avec les tétraèdres et le cylindre d'or, qui est le troisième élément du triptyque, en quelque sorte. Que forment ces tableaux, qui est la création. Alors là, le titre est limpide, la création, et on voit une espèce de surface liquide totalement brunâtre. Ce sont les eaux primitives, les eaux primordiales, bien sûr.
Celle qu'on retrouve chez Kubka.
Exactement, qu'on va retrouver chez. Enfin, que Kubka a même déjà peinte d'une certaine façon, dans un autre courant du symbolisme auquel il appartenait. Mais en effet, ce sont les mêmes eaux primordiales, dont émergent des chaînes de montagnes qui sont des tétraèdres, là aussi, justement, tandis que sur l'horizon est posé un triangle de couleurs, jaune, rouge, bleu, les trois couleurs primaires, au sens de primitive, au sens de primordial, c'est-à-dire les trois couleurs à partir desquelles la diversité chromatique du monde est engendrée, en quelque sorte. Hein. Et alors c'est fascinant parce qu'en effet, donc c'est un tableau complètement symboliste et mystique, hein, presque abstrait naturellement, mais totalement connecté, comme le disait Claire, à la question de la théorie des couleurs, puisque ce triangle chromatique avec les trois primaires, on le retrouve en fait en frontispice du livre d'Ogden Rood sur la théorie des couleurs, qui est le livre que les impressionnistes, puis les post-impressionnistes ont tous lu. Hein. Voilà, donc en effet, théorie de la couleur, idées mystiques comme cela sur la naissance du monde sont totalement connectées dans ces œuvres passionnantes, sidérantes de ces rusiers qui vont bien au-delà de ce que lui prétend à propos, il a voulu en faire des manifestes comme ça de sa préséance dans l'invention d'un certain nombre de choses dans l'histoire de la modernité. Il suffisait simplement de d'évoquer toute cette richesse sémantique des œuvres pour leur assurer une place. Une place qu'elles ne quitteront pas, j'espère, dans l'histoire de l'art. Ne quitteront pas, voilà, d'autant plus que le tableau, maintenant, enfin, sera visible de plus en plus, parce que c'était des œuvres qui étaient un petit peu cachées, à part le cylindre d'or qui est rentré il y a quand même quelques années au musée des Beaux-Arts de Rennes. Mais voilà, les tétraèdres rentrent enfin au musée d'Orsay, et donc on peut les voir, on pourra les voir après l'exposition de Pont-Aven en majesté.
C'est un artiste qui, tout d'un coup, sous vos commentaires, prend une dimension beaucoup plus vaste que ce qu'il n'avait jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, Claire ?
Oui, je suis très heureuse que cette modeste exposition puisse permettre de repenser le rôle de Paul Sérusier dans cette histoire du mouvement et de cette fin du 19e siècle. Un artiste qui a beaucoup tâtonné, qui a beaucoup produit, qui a beaucoup cherché, et cette recherche est tellement importante et forte qu'on peut encore en discuter aujourd'hui. Et c'est une des choses qui fait, à mon avis, son intérêt.
Merci Claire Bernardi, merci beaucoup Arnaud Pierre.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons écouté une rediffusion du 2 septembre 2018, lors de laquelle j'ai reçu Claire Bernardi et Arnaud Pierre pour parler de Sérusier. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr, lecture des textes Lara Brûle, une émission préparée par Seam Boutata, prise de son Pierre Monteil, et réalisation Franck Lilin et Philippe Baudouin. La semaine prochaine, nous parlerons d'un artiste que vous connaissez tous, mais sur lequel nous avons construit des préjugés complexes qu'une grande exposition au Centre Pompidou fait le pari de défaire, c'est le fameux Vasarely.
Je rencontre avec vous les deux commissaires de cette rétrospective et ça va être passionnant. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.